Les états de privation de la vie m'ont toujours renseigné beaucoup mieux sur la pléthore de ma puissance que les crédences petites bourgeoises de la bonne santé.
Tu cherches un
Un emploi de chanteur d'opéra.
Chanteur d'opéra, c'est une belle profession et tu es intéressé par l'opéra?
Non, pas vraiment, non.
Non, par le chant, tu sais chanter?
Non plus, non.
Non, tu connais les autres tu...
Non,
non, non.
Non, non.
Mais que diable, les différences de galère!
Ça fait raison, mais hâtez-vous!
Qui avait dit le bois l'autre promenade?
Cela est vrai, mais faites promptement, vous dites galère!
Alors, cette galère me tient au cœur.
Une histoire pas comme les autres. Une histoire qui vous sera racontée en musique et par les instruments de l'orchestre.
Bonjour et bienvenue dans votre numéro du mois de mai de Scène de vie, vie de scène, l'émission qui prend son temps de vous parler de l'actualité culturelle. Bonjour Cécile, bonjour Nathalie.
Bonjour JC.
Bonjour JC.
Alors, ce mois-ci, encore des conditions particulières pour Scène de vie, vie de scène, car nous ne sommes pas en studio, nous ne sommes pas en direct et nous ne serons pas en un seul morceau. Nathalie.
Oui, alors nous sommes dans un atelier, un ancien garage, rue Isambard à Évreux. Nous sommes dans l'atelier de Franck Dubois. Bonjour Franck, qui est notre invité.
Bonjour. Bonjour.
Alors, pour vous décrire d'un point de vue visuel et olfactif l'endroit où nous sommes, ancien garage. Ça sent l'essence, il y a du moteur, il y a des caisses, il y a du bois, il y a des bouts de piano, des valises, un escalier muni d'une rambarde en corde. Voilà, c'est un lieu de, on sort de travail, de création, de bricolage entre l'artisan, mais avec une sonorité aussi spécial, parce que voilà, je ne sais pas comment l'auditeur va recevoir notre émission, mais voilà, un lieu où on cherche, on crée, on entrepose, on stocke, insolite et curieux.
Nous aurons l'occasion d'ailleurs d'évoquer ce lieu et peut-être même l'histoire du lieu durant cette émission. Vous l'aurez compris, nous allons parler de création aux limites de la musique d'ailleurs. C'est une question que nous aborderons dans cette émission avec Franck Dubois. Voilà, où sont les limites de la recherche, de l'expérimentation et de la musique. Et nous parlerons également musique électronique. Au sommaire de cette émission, nous aurons Franck Dubois.
Et puis, on le disait tout à l'heure, une émission en plusieurs morceaux, puisqu'effectivement, nous irons interviewer, rencontrer un catcheur, une pute et un dealer. Une fois n'est pas coutume dans l'émission Scène de vie. Hein, voilà. C'est samedi soir, alors ça n'a pas encore eu lieu, ce sera samedi 26 avril à l'abordage à Évreux. Et voilà, avec mes comparses, Nathalie et JC, nous partirons à la rencontre de ce groupe, je ne sais pas si on peut parler de groupe en fait, de ce collectif plutôt, qui travaille donc la musique électronique. Voilà.
Et nous aurons l'occasion également de revenir sur la programmation des Jeudis de l'Atelier, qui est une programmation très riche dans le mois à venir.
Hein. C'est l'Atelier, pas les Jeudis de l'Atelier.
L'atelier, pardon. Sans les Jeudis maintenant.
Sans les Jeudis maintenant.
Les Jeudis, c'était il y a 2 ans, oui.
Très bien, et eh bien justement il y en aura pour tous les jours de la semaine, pour ainsi dire, dans la programmation. Mais tout de suite, sans plus attendre, je vous propose que nous retrouvions notre traditionnelle ambiance de vie, un moment de scène, un moment de vie.
Pas chose aisée, entendre dire ne l'est pas non plus. Si ma langue trébuche, que cela me soit pardonné. Si une seule oreille extrapole, elle est d'avance excusée. Notre histoire, l'histoire de notre héros, celle qui sonnera mensonge à vos oreilles, date de quelques siècles. En ces temps lointains, notre mensonge d'aujourd'hui disait vrai. Et oui, le dire de nos jours éternue des interprétations morveuses. Si les morts conservaient l'usage de la parole, mon aïeul dirait que les faits qui ont meublé ces jours sont aussi innombrables que les étoiles du firmament.
Le vôtre ne l'aurait pas contredit.
Voilà, un extrait sonore particulier. Nathalie, d'où sort-il cet extrait ?
Eh bien, je suis allée me promener avec le micro dans les loges du spectacle de Izigani, qui a été mis en scène par Fargas Assende la semaine dernière à l'auditorium du Cadran, dans le cadre de la programmation de la scène nationale. Et là, tous les comédiens et la comédienne étaient en loge, dans une petite loge, et on assistait à l'italienne, c'est-à-dire l'italienne, c'est le moment où on défile le texte rapidement, chaque comédien, avec son personnage, ses rôles, défile le texte pour se le remettre en mémoire juste avant l'entrée en scène. Voilà, donc on était vraiment dans un lieu, on était entassés dans une petite loge, on était cinq. Et voilà, histoire de vous faire sentir un peu ce qui se passe juste avant de rentrer en scène.
Voilà, juste avant que le public rentre dans la salle.
Et que les comédiens se préparent pour la représentation.
Très bien, nous passons à la première pause musicale et nous retrouverons juste après l'interview d'un catcheur, d'une pute et d'un dealer. qu'à quelques heures d'une soirée électrique, violente et sensuelle, nous nous retrouvons dans les loges de l'abordage avec le catcheur, la pute et le dealer. Dirty Groove, d'ailleurs, est également avec nous. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
À l'unisson. Vous proposez un concept au-delà de la musique qui flirte avec la foire de cow-boy, le cabinet de curiosité. Est-ce que cette définition de l'univers vous convient?
Alors, la foire de cow-boy, j'ai du mal à me retrouver dans le truc, mais je vois où. Oui, dans la fantasy et le rodéo artistique. Pluridisciplinaire un petit peu, donc elle est son, vidéo notamment.
Dans mon idée, c'était un petit peu voilà, les tentes dans lesquelles il y a les monstres de curiosité, il y a ce côté freaks du coup.
Oui, c'est un peu une monstrueuse parade, ouais.
Sur scène, vous êtes plus sur un terrain d'expérimentation, une provocation ou uniquement sur un terrain de jeu?
Les trois en même temps, en fait. C'est-à-dire qu'on aime bien expérimenter des choses en les mélangeant. Et après, c'est un jeu parce que dans nos caractères et nos personnages, il y a pas mal d'autodérision. On s'inspire aussi pas mal du burlesque. Et ce côté aussi, fantasy, sensualité. Du coup, c'est un petit peu un mélange, comme tu dis, d'expérimentation. Et le troisième...
C'était provocation.
Oui, provocation complètement. Parce qu'on joue avec les genres aussi, les sexualités des gens. La pute est un mec, justement. Ah. Des fois, on ne le sait pas forcément. On aime bien jouer avec les codes aussi et les contourner.
La transgression aussi. Plus transgression que... Il y a une part de provoque, mais ça touche aussi la transgression pour dire que la fantaisie est un bon moyen de d'exprimer un point de vue sur le monde à la con ou la réalité à la con, comme on peut l'entendre parfois, mais à travers la fantaisie, quoi.
Est-ce que c'est vraiment, du coup, la scène, et puis même plus loin, la salle de concert, un endroit où tout est possible, où tout peut arriver? C'est-à-dire que pour vous, sur scène, tout peut arriver, et on a vraiment l'impression que c'est ce qui passe dans le public, quoi. Que quand on les voit, le public, il peut y aller, quoi. C'est un endroit où on peut lâcher tout ce qu'on a, et voilà. Est-ce que c'est ça l'idée aussi?
Oui, effectivement, vu qu'il y a une part de rêve là-dedans, de rêverie, qui c'est aussi faire passer le message qu'effectivement, on peut, le moment d'un show, et par extrapolation dans nos vies en général, on peut très bien rendre des choses possibles et colorer un peu notre quotidien, ouais. Donc c'est un peu ça, oui, tout est possible.
Et après, on aime bien aussi provoquer les débordements chez les gens aussi. Ce truc de où à un moment ça part en sucette. Même si on garde un contrôle sur ce qu'on fait et on réfléchit quand même ce qu'on fait sur scène. Mais ouais, il y a une partie vraiment de débordement qu'on aime bien en fait.
C'est assez cathartique quand même, tu vois, comme c'est la nuit, tu vas pour te faire plaisir et puis finalement c'est. Un des rares espaces de liberté où tu peux péter un peu les plombs et c'est autorisé, tu payes même pour faire ça et c'est cool, enfin, et nous on est les premiers à aimer ça et évidemment on aime quand les gens ils débordent et qu'ils oublient aussi un peu leur quotidien et les règles et les choses comme ça, quoi. Alors voilà, nous effectivement pour en arriver là, en même temps on travaille beaucoup pour essayer de faire en sorte que le show il soit classe. Ça veut pas dire qu'on garde pas une part de spontanéité, de choses comme ça, mais en même temps on essaie de vraiment de travailler, de donner corps à nos idées, de voir où ça peut aller, quoi, voilà. Mais oui, c'est super important que ça décanille et que ça pète des plombs et que ce soit la grosse fête, quoi. On est là quand même pour ça.
Dans les limites de la courtoisie, justement, ça peut paraître au premier abord un petit peu, pour ceux qui écouteraient pas ou qui voient que le nom, effectivement, ça suscite le débordement, mais toujours dans la trame, c'est le sourire et la rencontre à travers l'exutoire. Ouais.
Vous disiez à l'instant qu'il y avait quand même du boulot de préparation. On se posait la question, c'est quel est le processus de création? Parce que l'image que vous renvoyez sur scène pourrait donner l'impression qu'il n'y a pas eu de création, que tout se fait sur le moment. Enfin, il y a un côté où on ne voit pas justement toute cette préparation et on ne la ressent pas forcément. Mais alors, comment se passe le processus de création entre le catcheur, la pute et le dealer?
C'est global, quoi. Enfin, c'est vraiment, ça se fait vraiment à trois. Il y a d'abord, ça part quand même, quand on part sur un nouveau show, il y a quand même une partie de mise en place de la musique, déjà, de qu'est-ce qui va passer comme musique, de comment. Et après, c'est très dans le scénario, c'est-à-dire, avec la musique, on va penser à des images, on va les travailler, on va en parler entre nous, on va en parler à des scènes. Enfin, il y a un côté qui est très très scénarisé et dans l'imagination en même temps. Sauf qu'on ne sait pas forcément où ça va aller, mais on se propose des trucs comme ça, on essaye et après on adapte ça. Et du coup, c'est aussi ce qui donne ce côté show, son et image, quoi, qui est vraiment uni. Et après, voilà, c'est vraiment tout se fait vraiment à trois et c'est beaucoup de finalement de brainstorming et de choses comme ça et de tout ce qu'on a pu amasser en background culturel et de ce qu'on a vécu ces derniers temps qui fait que ça va ressortir, voilà, toujours dans ce principe effectivement de transgression et d'autodérision et on aime bien aussi ne pas trop se prendre au sérieux et surtout pas sur scène en tout cas et voilà.
Après, il y a une partie aussi qui est à laquelle on tient pas mal, c'est le temps réel et le risque dans ce qu'on fait. C'est-à-dire que bien que tout soit pensé et orchestré dans nos machines, il y a une part de temps réel et de risque auquel on tient, que ce soit les images pour le dealer, parce que c'est lui qui fait les images, et le catcheur et la pute, on fait la musique. Et du coup, les bootlegs, par exemple, ce qui est un procédé de mélanger deux chansons, on le fait pas à la maison et on passe juste le morceau, on fait tout vraiment en temps réel, on prend l'original qu'on mixe avec un autre morceau et pareil pour les images, même si on a des tableaux qui correspondent à des thèmes musicaux, les images sont toujours jouées en temps réel. Voilà.
Moi, je trouve, enfin, en tout cas, quand on découvre justement votre univers, ça, quand on connaît un petit peu le spectacle, quand on connaît le concert qu'on propose aujourd'hui à tout le monde, moi, je trouve vraiment que, du coup, on a vraiment la sensation qu'il y a un espèce de regard décalé, parce que, effectivement, quand on vous voit sur scène, il y a un côté joyeux bordel où on a l'impression que rien n'est organisé, alors qu'en fait, c'est quand même hyper beau de travailler, vous venez de le dire. Et je m'interroge finalement sur le fait, est-ce que vous. C'est un autre regard que vous posez sur la culture, sur la musique, le show, parce que c'est pas que de la musique ce soir. Enfin voilà, il y a aussi du plus, quoi. C'est une autre vision des choses.
Bah oui, c'est un peu comme ce que vous disiez tout à l'heure. C'est la transgression, elle est faite sur une base entre guillemets politique et solide, réfléchie. Donc il y a pas de transgression sans idée avant ou sans opinion sur un monde, une société. Donc oui, complètement, on y prend plaisir, on y travaille, complètement. Moi, je me vois pas, on parlait de rêverie, on a rêverie, transgression, provocation, autodérision, tout ça, c'est des manières de voir le monde et de se créer, de sortir un petit peu du monde en noir et blanc et se créer une autre réalité qui reste une vraie réalité, qui n'est pas un truc de perché, quoi.
Sur le set de ce soir, donc c'est le catcheur, la pute et le dealer, on a eu l'occasion de vous voir sur Évreux et notamment sur le Rock dans tous ses états avec le cabaret Freaks. Est-ce que c'est le même système de travail, de création, de spectacle quand il y a plus d'une quinzaine de personnes qui œuvrent sur le même show, quoi? Comment est-ce que ça se passe?
Ouais. Alors, en fait, c'est deux projets complètement différents. Après, vu que c'est un peu la famille, tous ces performers-là sont des gens qui ont travaillé quand on peut travailler avec. Évreux, c'était l'occasion, vu qu'il y avait Cabaret Freaks la veille, c'était l'occasion de récupérer des performeurs qui sont des amis à nous et de faire une proposition plus forte pendant notre show. La seule différence entre le Rock dans tous les états et ce soir, c'est que maintenant, on a une autre scénographie qu'on a bossé là en résidence le mois dernier. Qui nous on devient aussi, on essaie de créer du mouvement sur scène et on devient un petit peu performeur qui sort du praticable et qui en interagit un petit peu différemment. Donc mais pour revenir au, c'est pas voilà, c'est juste deux projets vraiment différents, quoi. Cabaret Freak, c'est un DJ avec beaucoup de performeurs, le catcheur et putain de dealer, c'est un projet à part, mais c'est un petit peu mais c'est les mêmes inspirations, comme je disais tout à l'heure, le cabinet de toutes les folies un petit peu, quoi. Donc on est dans la même trame un peu, ouais.
Et alors justement, d'où elle vient l'inspiration et comment on fait pour la renouveler à chaque fois
Ah bah
le sexe, la violence.
Ok. Ouais.
Bah elle vient de vu que on disait tout à l'heure, c'est des idées qui viennent de loin. C'est une éducation, c'est un regard sur le monde. C'est un truc qui se nourrit des rencontres déjà. les rencontres, qu'elles soient artistiques, humaines, un festival qui fait qu'on joue là, donc ça se nourrit d'humain quand même, parce que c'est une base humaine tout ça, et ça se renouvelle parce qu'on a appuyé sur on, sur une folie douce, et que ça, tu peux plus mettre off après.
Après, ce qui nous réunit aussi tous les trois, car bien qu'on ait des sensibilités artistiques différentes et communes à la fois, c'est ce goût pour les paillettes, pour le fun, pour les soirées marrantes où les gens se lâchent, et l'humour aussi, parce qu'on se chambre beaucoup entre nous, et c'est vraiment parce que même le catcheur la pute à la base, parce qu'il n'y avait que le catcheur et la pute, c'était parti d'une blague, parce que moi j'étais en catcheur, Mick avait monté un truc de costume, donc il aimait bien se déguiser en meuf, et c'est venu d'une sorte de blague à la base. Et quand on a commencé à travailler avec Gif, qui est devenu plus tard le dealer, on s'est dit fallait continuer cette trinité, mais toujours dans la même lancée, quoi, quelque chose de décalé, qui interpelle l'imagination aussi. Et en même temps, avec une attitude décalée, rock'n'roll, électro, faire danser les vieux rockers et les jeunes clubbers, en fait. C'est vraiment ça, notre truc.
Bah, moi, voilà, je me suis posé une question qui peut paraître bête, hein, mais tant pis, j'y vais. voilà, je me suis demandé si c'était pas, en fait, une nouvelle façon d'être rock'n'roll, quoi. Voilà, le côté punk aujourd'hui, dans les années 2000, est-ce que c'est pas ça? Est-ce que vous représentez pas ça, un peu?
Bah, non, c'est pas une question bête, dans le sens où...
Merci.
Non, pas du tout, même en toute humilité, ça reste, on cherche à casser le DJing aussi, on sait très bien, même s'il y a une création ou des choses qui se passent, moi personnellement, en tout cas je passe personnellement, depuis que j'écoute d'électro, moi, voir des mecs derrière un praticable pendant 6 heures sans déco et sans performance, parce qu'on n'a pas de rapport à l'instrument dans la musique électronique, donc s'il n'y a pas un déguisement ou un truc visuel qui se passe autour de ça, d'un, c'est très très compliqué d'absorber, parce que personne ne sait vraiment ce qui se passe.
De moins en moins de risques aussi dans la musique électronique, tout est fait sur ordinateur, les gars on les voit, on ne sait pas s'ils appuient sur des boutons ou pas, du coup ce côté-là, on veut vraiment le casser pour qu'on ressente que c'est des musiciens qui jouent, quel que soit l'outil, en fait, ça reste qu'un outil. Et voilà, c'est aussi ça, c'est une cause pour laquelle on lutte, c'est vraiment la performance live aussi, et qui fait que, oui, on est un petit peu à contre-culture du DJ statique que tu sais pas, enfin, quand tu le vois, tu sais pas s'il touche vraiment des choses ou pas, en fait. Voilà, c'est aussi notre attitude par rapport à ça.
Après, sur le côté punk, tu peux pas représenter un côté punk. Tu peux faire des trucs et c'est punk, mais tant mieux. Mais tu peux pas représenter un esprit punk. Donc, du coup, nous, on essaie juste de faire ce qu'on a envie de faire, sans se poser trop de barrières, en se faisant plaisir et en se disant, en essayant de faire plaisir aux gens aussi, quoi. Sans se fixer trop de barrières et juste en essayant de faire quelque chose qui nous plaît, quoi. Après, ça nous empêche pas d'être exigeants, mais par contre, voilà, on n'a pas vraiment de limites à part celle de notre imagination, je pense, et de notre petite folie à tous aussi, quoi.
Bah, merci à vous, en tout cas, le catcheur, la pute et le dealer, d'avoir échangé avec nous. Merci. Simulate violence, obscenity, and religious organizations.
retrouvons maintenant Franck Dubois. Alors Franck Dubois est créateur, chercheur, expérimentateur et programmateur également de musique improvisée, de musique libre ou d'expériences sonores tout simplement. Ma première question, Franck, c'est comment vous définissez d'ailleurs la musique que vous programmez ou en tout cas ces expériences sonores ?
Ah, c'est toujours un peu délicat les cases. Moi j'ai appelé ça musique expérimentale et improvisée. Alors si on va à la médiathèque par exemple et qu'on regarde dans les cases pour trouver ce type de musique, parce qu'il y en a beaucoup quand même, c'est ou dans la section musique contemporaine ou dans ce qu'ils appellent musique nouvelle. Alors il y a d'autres cases qui sont musique d'avant-garde. Ça peut porter ce nom-là, expérimental, avant-garde, nouvelle, innovante. C'est aussi utilisé. Voilà, c'est toujours difficile. Moi, je dis expérimental parce que ça ouvre un champ assez large d'expérience sonore et d'expérimentation de médiums sonores, d'outils. Les instruments sont souvent détournés. Voilà.
C'est aussi une façon d'aborder le son différemment que la musique. Non mais c'est difficile du coup de classer ça également en musique, c'est une façon d'aborder le son.
Non ouais, enfin oui, en même temps ça reste de la musique, hein. Ce point de vue là est toujours discuté, mais pas pour ses créateurs déjà. À la limite, ce qu'on classifie aujourd'hui dans l'histoire de la musique comme de la musique contemporaine, à partir du début du 20e jusqu'à la fin du 20e, c'est de la musique expérimentale, c'est-à-dire que c'était des gens qui étaient en pleine recherche de création sonore, de création musicale. Où se situe la musique, à partir de quel moment on définit que c'est de la musique, parce qu'il y a de l'harmonie et du rythme? Pas nécessairement. L'histoire de la musique prouve bien qu'il y a la décaphonie, la musique brutiste, concrète, sont des formes de musique écrite, pas forcément improvisés, composés, qui ne sont ni dans le rythme, ni dans l'harmonie, et c'est pourtant de la musique.
Sur cette façon d'aborder les choses, il y a un côté provocateur, un côté performeur un petit peu dans le son. Quand on avait préparé un peu cette définition, on se disait que de toute façon vous allez la refuser, cette définition. Mais on s'est dit que voilà, qu'il y avait un côté quand même pour nous de performance et puis de provocation également, auditive éventuellement.
Provocation, oui, de toute façon, après, je ne peux pas parler en termes totalement général. Il y a les propositions que je fais, enfin que l'atelier fait, sont un petit peu provocatives parce qu'elles ne sont pas habituelles et pas entendues. Elles nécessitent une part de laisser aller de l'auditeur, de curiosité. On est sur des formats et des territoires qui diffèrent. Il n'y a pas de morceau étendu dans un format de 4 minutes. C'est souvent une session d'un bloc, écrite ou improvisée, et avec des registres sonores qui ne sont pas habituels. Effectivement.
Il y a quand même l'idée de... Alors, happening, est-ce que le terme est juste? Dans le sens où ça va être une performance, enfin, au moment de l'atelier, il va se passer quelque chose à ce moment-là qui ne se reproduira plus jamais à un autre moment.
C'est souvent le cas parce que même s'il y a eu un concept à la base de cette programmation qui était de se faire rencontrer des musiciens qui n'ont jamais joué ensemble, ça participe de la section improvisée, entre guillemets. C'est-à-dire que ces gens-là, même s'ils ont des compositions écrites, ces musiciens, ces artistes, œuvre souvent dans l'improvisation, même sur des projets solos. Et moi, je favorise les rencontres de musiciens qui ont le désir de jouer ensemble, qui peuvent venir d'univers sonores différents. Mais voilà, c'est-à-dire que la pièce ou le concert qu'on va voir dans cette programmation, la plupart du temps, ça n'existera pas ailleurs parce que c'est une rencontre à un moment T de deux musiciens qui vont improviser sans avoir travaillé avant. Mais c'est pas toujours le cas. Il y a des projets qui sont solos ou écrits, mais qui par contre prennent en compte par exemple l'architecture d'un lieu, l'espace acoustique, le contexte vraiment. Il y a beaucoup de propositions dans des lieux très différents qui prennent en charge ça, voilà.
Mais justement, quel lien il y a entre le lieu, l'acoustique, la recherche, pour vous avoir suivi sur quelques expériences, je vois bien comment vous jouez vous avec ça, mais Qu'est-ce que vous recherchez à travers les lieux, l'acoustique, la résonance, la vie du lieu finalement?
Moi, je réfléchis à, par exemple, dans les gens que j'invite, je réfléchis à ce qui pourrait scier le mieux à cet artiste et avec celui-là, dans ce contexte-là, je leur propose. Après, ça prend du temps, on réfléchit, les musiciens ne sont pas toujours d'accord de rencontrer un que j'ai proposé. Enfin voilà, c'est un travail de longue haleine. Mais c'est plutôt eux qui décident, hein, c'est pas moi. Moi, je ne fais que des propositions. En l'occurrence, je sais pas si je peux déjà parler de. J'invite un artiste suédois le 22 mai qui va faire un concert dans la grande halle des expositions. Donc, il y a un espace qui fait à peu près 3000 m², je crois, 3 ou 4000 m². Et lui, son travail, c'est de. Donc, il vient tout seul, il rencontre pas quelqu'un, il rencontre l'espace. Parce qu'il joue avec la résonance de l'espace, vraiment. Il a des micros en temps réel, dont il reprend des choses avec des choses qu'il amène lui. Il fait ce qu'on appelle du field recording, c'est-à-dire qu'il enregistre le monde. Il a pas d'instrument, il a juste une table, une console, comme tu as là, j'y sais, avec une banque de données qu'il a enregistrée à travers le monde. Et il joue chaque concert qu'il produit, enfin qu'il fait, chaque projet en général prend en compte totalement l'acoustique du lieu. Donc ça n'a lieu qu'à ce moment-là. Voilà, donc lui je lui ai proposé, comme il cherche des espaces à grande résonance, je lui ai proposé la grande halle. Le Dédalus Ensemble qui vient pour la Nuit des Musées sur une pièce écrite de Jean-Luc Guillonnet le 17 mai fait un travail acoustique sur le musée, c'est-à-dire qu'ils vont jouer empiriquement de manière acoustique à 5 musiciens dans plusieurs salles. Voilà, ils sont venus, ils ont travaillé sur le musée, sur l'acoustique. Voilà,
ça veut dire que l'auditeur, pour avoir le concert, choisira le lieu de sa préférence, non?
Non. Par exemple, si on revient au Suédois, dans la grande halle aux expositions, il y aura un dispositif où le public sera assis au milieu de cette grande halle vide, avec une sorte de multidiffusion. Il peut bouger dans la salle, mais il peut, de toute façon. Il est libre de bouger, ça c'est clair. Mais bon, voilà, il y a quand même un dispositif de situation pour les spectateurs. Pour le cas de l'ensemble des Dédalus sur une pièce écrite, hein, qui s'appelle « Oui, dites », le public sera à un endroit et les musiciens vont jouer dans différentes salles. Mais le public ne bougera pas. Ce sera sans être une scène et là où se trouvent tous les spectateurs. C'est quand même ça, mais disposé différemment et qui joue avec l'acoustique du lieu.
Oui, on sent que dans votre projet, votre envie, c'est quand même aussi de susciter la curiosité, la rencontre, la création, parce que c'est quand même très, très multiple et divers. Vous avez une volonté de montrer aussi la recherche d'un artiste ententé, de se rencontrer des gens qui ne se rencontrent pas forcément, de déplacer le point de vue d'un spectateur. Au départ, votre position, c'est quoi? C'est de nous sortir de nos habitudes, de nous montrer de ce qu'il y a, ce qui peut être tout à fait, parce que la démarche quand même profonde, elle est un peu là.
Ouais, tout à fait. Moi, je l'évoquais tout à l'heure, je pense qu'on vit dans une société qui est une société d'image, où on est constamment surchargé d'image et où tout passe par le rapport à l'image. Et c'est un peu au détriment de notre capacité à écouter, à être attentif et à avoir nos petits pavillons de nos petites oreilles qui se mettent vraiment en mode actif. C'est-à-dire qu'on les rend un peu paresseuses, je pense, hein, par les débits de compression, par la saturation sonore, par l'image qui prévaut. Et donc je porte un vrai désir à aller vers des choses qui suggèrent notre attention, notre disponibilité, notre manière d'écouter, d'appréhender l'espace, une œuvre. Voilà.
Et est-ce que du coup ça demande, alors moi le public qui forcément il va être interrogé par cette démarche, par une performance, comment on l'accompagne ce public là est-ce que c'est des publics qui sont pour le coup spécialisés, enfin qui ont déjà une attention à ce projet là ou est-ce que vous croisez des gens
je travaille de longue haleine à faire venir tout public mais effectivement avec des... Il y a toujours le côté un peu l'a priori de musique difficile, donc un peu élitiste. Ou voilà. Moi, tout le travail de l'atelier, je mets toujours en jeu, hein, je suis désolé, c'est parce que je fais tout. Mais c'est vraiment de... d'essayer d'amener ça qui n'est pas visible, qui est peu montré. Vous savez, enfin, je sais pas, dans les années 30-40, des gens comme Cage, Reich, Parmigiani plus tard, Ferrari, tous les gens qui ont créé des œuvres marquantes de l'histoire de la musique, on les prenait pour des tapés, des gens inaccessibles. Et voilà. Après, moi, je fais le travail, par exemple, avec le public. Il y a des La plupart des artistes que j'invite, j'ai une collaboration avec le Conservatoire de musique, le CRD, avec lequel on organise des ateliers workshop ouverts à tous, sur réservation. Donc il y a la possibilité de rencontrer l'artiste et son œuvre, et aussi un atelier de pratique. Donc ils sont gratuits, c'est ouvert à tous. J'essaie aussi de faire venir la classe musique du lycée d'État qui est venue là, et moi j'essaie vraiment d'embringuer des choses avec des jeunes publics. Voilà, après, sur chaque proposition, qu'elle soit de l'ordre de la performance, du projet écrit, par exemple, avant le concert ou la prestation, je ne dis rien. Je dis juste les trucs significatifs à chaque fois, pas de portable, pas de voilà, non, bref. Mais je n'induis rien. Je laisse le spectateur pleinement dans un truc un peu particulier, et puis après on en parle. Et après, je donne des clés, je propose à l'artiste de rencontrer les gens, et voilà. Mais c'est un peu le même postulat pour moi qu'en art plastique, dont c'est mon métier. C'est je ne supporte pas les cartels qui sont à côté d'une œuvre, parce que où ils vous expliquent le nom de l'auteur, le médium, l'année. Il y a beaucoup de gens qui iront, comme ils ont besoin d'un repère, ils vont aller directement à ça pour après appréhender l'œuvre. Et je favorise toujours plutôt d'être face à l'œuvre, qui peut paraître hermétique, mais ça, ouais, je suscite aussi cette démarche de, il faut être curieux. Voilà.
Oui, mais est-ce que la curiosité, elle s'accompagne pas aussi dans la découverte de certains sens, de certains sons auparavant? Est-ce que vous travaillez aussi avec des jeunes, tout jeunes publics en milieu primaire, justement, sur comment écouter des sons différents?
Ouais, oui, j'y tiens. Enfin, j'aimerais. Ça, pour l'instant, ça n'a pas été mis en œuvre. C'est-à-dire qu'on travaille essentiellement avec le conservatoire de musique et des classes musique qui sont déjà en lycée. Donc, jeune public, si, bien sûr, oui. Mmh. Oui, j'en ai envie. C'est quelque chose qui va se développer, je pense, si on continue à me soutenir.
Justement, c'est aussi une question. Vous êtes, comme on peut dire, quand même sur des domaines plus alternatifs, à part nos systèmes. Comment on vit? Comment on finance? Qui vous soutient?
Alors, je vais revenir sur un petit truc, si je peux en parler. Oui. C'est par exemple là où on se trouve, on est dans un atelier, donc tu l'as décrit tout à l'heure, Nathalie, un vieux garage automobile avec tout ce que ça comporte. Et pendant des années, en fait, l'atelier et l'association existent depuis 1999. Je l'avais créé avec deux plasticiens. Et très vite, on a eu envie de propositions plutôt art plastique et au tout départ. Et puis ça a dérivé vite sur des objets, des propositions sonores. Mais à l'époque, nous faisions ces propositions-là sans aide, sans soutien financier, sans subvention. C'était aussi une volonté, on voulait être totalement indépendant pour ne pas avoir de compte à rendre. Et on faisait ça aussi dans des conditions un petit peu punk et illégales. On n'aurait pas pu être soutenu parce que le lieu n'était pas vraiment aux normes. Enfin, il ne l'est toujours pas. Hein,
mais... nous en rendons bien compte.
voilà. Et puis au bout d'un moment, j'ai un peu capitulé parce qu'effectivement, les gens que j'invitais avec des propositions pointues et difficiles, il y avait un petit peu de public qui s'est créé. Mais surtout, les musiciens repartaient avec 3 francs. À l'époque, c'était des francs, voire des euros à un moment. Mais très peu, en fait. Mmh. Voilà. Il y a eu un petit épuisement à leur endroit et j'ai un peu lâché le truc. Et puis, j'ai arrêté en 2006 et en 2011, c'est Jean-Pierre Brière de la compagnie du Méga Pobec qui venait régulièrement, qui a fait travailler des musiciens qu'il a rencontrés ici dans des créations et qui m'a dit, mais Franck, c'était énorme ces propositions, il faut les reprendre. Il m'a un petit peu motivé. Mmh. Il m'a proposé un cadre qui était la chapelle avec un principe de résidence. Et là, ça m'a remotivé. J'ai fait des dossiers, j'ai été voir les collectivités, j'ai bataillé bec et ongle et j'ai obtenu un peu de soutien. Voilà.
Est-ce qu'on produit la même qualité de proposition? Est-ce qu'on produit la même chose dans le plaisir également quand on passe d'un état de programmation underground, ouais, illégale, à une programmation officielle d'une institution?
Oui, pour moi, oui. Alors, oui, pour moi, c'est la même qualité. Si je regarde en arrière sur les propositions que j'ai faites, je pense que oui. Maintenant, il y a des paramètres incontournables. J'ai les moyens de faire venir des gens dont je n'aurais pas pu précédemment. Et puis, il y a des moyens de mise en œuvre que j'ai maintenant qui rendent la chose plus pertinente, je pense, qu'à l'époque. Mais les propositions à l'époque, pour moi, étaient tout aussi pointues, ouais.
Un public plus large aussi, sûrement, qui est touché.
Un public plus large, parce que plus de moyens de communication, des collaborations auxquelles je tiens vraiment. Hein, ces propositions-là, voilà, je pourrais les faire dans un lieu ciblé, référencé et systématiquement. Je favorise des lieux atypiques, des collaborations diverses avec différentes structures.
Je voudrais revenir un petit instant sur le lieu. C'est très bien. Et je voulais revenir un petit instant sur le lieu que vous venez d'aborder, sur voilà son histoire un peu underground punk au démarrage, ouais, qui a été l'essence du projet aujourd'hui beaucoup plus officiel. Dans ce lieu-là, Nathalie le décrivait tout à l'heure. Alors, je voudrais qu'on revienne deux secondes un petit peu sur votre matière sonore et un peu votre démarche à vous, que ça procure vous, Franck. Pour l'exercice de la radio, nous vous voyons.
D'accord. Je ne savais pas si tu parlais de l'atelier, enfin si vous parliez de l'atelier ou de
vous
moi.
Vous pouvez nous tutoyer, mais nous vous voyons.
Donc moi, sur mon travail personnel musical.
Oui, parce que je vois qu'il y a des cadres de piano. J'ai eu l'occasion de vous suivre sur certaines expériences. Voilà, quelle est un peu votre matière d'inspiration à vous, et puis ce que ça procure au niveau sensation, au niveau exercice cérébral. Voilà, un petit peu quelle est l'alchimie qu'il y a derrière tout ça.
Voilà, comme je suis dans des appétits à faire rencontrer ces musiciens et ces artistes-là, j'ai moi-même je suis un peu un débutant, mais j'ai un travail musical avec Marc Levillain, qui est un musicien d'Evreux qui joue dans plusieurs groupes de plutôt rock. On a un duo, et dans ce duo-là, mon instrument à moi, c'est ça peut être plusieurs choses, mais l'instrument premier est un cadre de piano, parce que je ne produis que des effets Larsen, des feedbacks, des choses un peu a priori stridentes et difficiles, mais que j'arrive plus ou moins avec l'expérience à gérer pour rendre ça plus doux, tant bien que mal. Et en fait, le cadre de piano me permet une palette beaucoup plus étendue qu'une guitare, comme un guitar hero qui vient faire un Larsen près d'un ampli, en posant plein de micros et en jouant sur plusieurs pistes avec le cadre de piano, j'ai une palette beaucoup plus grande. Voilà, ça c'est pour la forme. Après,
il y a une histoire de démarche quand même, parce que c'est vous le disiez tout à l'heure, c'est pas une mélodie que vous allez nous jouer ou une sonate.
Ça se discute, mélodie. Je pense qu'on arrive à être mélodique, mais je comprends.
Pas quelque chose d'écrit en tout cas. Il y a une recherche.
Oui.
Et voilà, quelle est la démarche de cette recherche et par quoi elle est générée? Là, c'est plus cérébral, c'est plus au niveau de la sensation.
Alors pour Marc Levillain et moi avec notre duo, la démarche première est le contexte, c'est-à-dire que nous ne jouons, nous ne répétons jamais. Il y a eu à ce jour 28 sessions à l'étranger, en France, dans des lieux toujours un peu étranges. Et en fait, ce qui nous intéresse et nous motive, c'est d'improviser. Donc déjà, on répète pas, on improvise. Et c'est de prendre en compte la résonance et l'acoustique d'un lieu, d'un espace. On ne jouera pas sur une scène type abordage ou rock ou smack. On ne jouera pas dans un bar. On ne jouera pas... Voilà. L'un des propos... Enfin, l'un des paramètres les plus importants de ce duo, c'est d'improviser avec un espace et de jouer avec l'architecture même du lieu. Donc on se met en péril à chaque fois, mais c'est ce qui nous titille. C'est voilà.
Donc, dans l'émotion que vous ressentez quand vous travaillez, il y a quand même toujours une prise de risque.
Oui. Mais enfin, en même temps, prise de risque, on a... Oui, il y en a une. Il y en a même un pour un musicien qui va jouer une œuvre écrite. Hein. Je pense, pour nous, on se crée nos petites recettes et l'expérience fait que... on a nos... On sait comment ça va fonctionner. Après, on est effectivement, et oui, il y a une prise de risque, oui.
Nous nous allons aborder un petit peu la programmation que vous nous avez concoctée là sur. Elle est assez dense d'ailleurs.
Assez.
Cette année. C'est peut-être pour nous en tout cas assez difficile de nous y retrouver. Donc on va vous proposer de voir les dates ensemble et les particularités des rencontres que vous nous proposez. Alors, je vous propose qu'on laisse tomber celles qui sont déjà passées, si ça vous convient. Et nous arrivons du 5 au 10 mai avec Paulette. Une guest assez particulière.
J'ai eu un petit peu de culpabilité à un moment, et puis il y a quelques personnes qui m'ont dit mais non. Donc c'est une installation que je propose moi dans le cloître du conservatoire de musique du 5 au 10 mai, et c'est Paulette, c'est une poule. En fait, c'est venu de l'idée de. Donc, j'utilise un. Je vais vous décrire la pièce, ça va être plus simple. J'installe un piano à queue au centre du cloître du conservatoire de musique, qui est un cloître ouvert avec des coursives sur le côté. Et sur lequel je branche plein de capteurs comme des micro-contacts qui vont redistribuer le son qu'il y aura sur le piano dans toutes les coursives, sur plusieurs petits haut-parleurs ou petites enceintes amplifiées. Et en fait, Paulette, une poule vivante, va venir faire un solo chaque jour de la semaine à 17h, pendant une heure, de 17 à 18h. C'est en entrée libre. Voilà. Alors, c'est un principe fluxus. Vous voyez, fluxus, ce mouvement artistique, c'est parti de gens comme Cage, voilà, il y en a eu plein d'autres. Et ce mouvement avait un leitmotiv assez important qui était « il advient ce qu'il advient ». Et ça, sans tomber dans l'absurde, parce que c'est un côté un peu absurde de mettre une poule sur un piano qui va faire un solo chaque jour à 17h dans un conservatoire de musique, ça peut faire jaser entre guillemets certains conservateurs. Mais
c'est presque un affront pour la musique.
Mais c'est pas c'est justement pour démystifier certaines choses, tu vois, pour prendre du recul, et effectivement, c'est un côté un peu absurde. En même temps, c'est aussi de proposer autre chose. Ça peut être à la fois insupportable, poétique. La poule peut décider, il advient ce qu'il advient, de sauter du piano et d'aller picorer dans l'herbe. Ça sera sa performance, c'est elle qui décide. Voilà, c'est une installation qui peut être à la fois en termes d'écoute assez belle, parce que j'ai fait des tests avec Paulette dans cet atelier, et j'avoue qu'il y a eu des moments magnifiques, il y a eu des moments insupportables. on ne sait pas ce qu'il advient. Voilà, il y a un côté un peu surprise, un côté un peu enfantin, pas aller chercher midi à 14h. voilà.
voilà. Très bien, mais en tout cas une expérience assez particulière.
Donc ça, c'est du 5 au 10 mai, tous les jours, sauf le mardi 6 mai, parce que Paulette est en congé. Non, en fait,
Bah, c'est comme les artistes, il y a eu un jour de break.
Voilà, un jour de break. Non, j'ai un truc ailleurs, j'ai une commission ailleurs, et donc Paulette, mardi, ne performera pas.
Il y a d'autres choses, moi, en lisant le programme, du coup, enfin la programmation, qui m'ont interpellé. Philippe Jack,
oui, quand alors
on,
ça,
quand
c'est
on lit, c'est 180 platines, 12 projecteurs de diapositives et 2 projecteurs de cinéma.
Oui, alors ça, c'est une installation qu'il a faite sur laquelle il a eu plein de prix il y a assez longtemps, qui a été assez incroyable, mais il ne viendra pas sur un projet comme ça. Il ne va pas installer 180 platines. Non. L'atelier n'avait pas le budget pour ce projet-là.
Je ne suis même pas sûre que les 180 rentrent à la chapelle.
Donc non, Philippe Jack, c'est un artiste assez incroyable que j'ai vu plusieurs fois en Norvège. Donc lui, il est anglais, il vit à Liverpool. Et il a c'est comme un... Il pourrait ressembler à... un peu à la scène électronique avec 2 laptops et voilà, sauf que c'est pas 2 laptops, c'est pas 2 ordinateurs portables ou c'est pas 2 platines DJ modernes Technics, je sais pas quoi, c'est 2 vieux Topaz. Alors moi j'appelle ça des Topaz, c'est ces vieux manches disques qu'on pouvait transporter. Voilà ça, et ça c'est son instrument principal. Il a tout un gourbi d'électronique entre les deux, et en fait ce qui l'intéresse, c'est pas tellement ce qui va passer sur, parce qu'il passe que des disques vinyles. C'est pas tellement la musique qu'il y a sur les disques vinyles, mais c'est plutôt la matière qu'il y a dans le sillon même du vinyle. C'est-à-dire qu'il va chercher les couches successives dans le sillon. Tout ça avec un fratras d'électronique entre les deux, ce qui crée un univers très immersif, très faite de plein de strates très mélodiques, peu rythmiques. Mmh. Et voilà, c'est vraiment un paysage sonore qu'il propose. On est plutôt dans des territoires à presque fermer les yeux. Alors on peut le regarder parce qu'il est très beau. Moi je le trouve très beau. C'est un petit papillon anglais avec ses vieux trucs. Mais c'est vraiment il nous emmène dans un paysage de strates sonores. Voilà.
Ce sera mercredi 7 mai à 21h à la chapelle du Mégapobec.
Du Mégapobec, rue de la Cavé-Boudin, oui.
On avance dans le programme. Une programmation okay. également à l'Abordage Club. Ouais. Eddie Boubaker et Roberto Dani.
Ouais, alors ça sera la
fameuse rencontre.
Ouais, ça participe justement de ces rencontres. C'est deux musiciens que moi j'aime beaucoup séparément, qui ne se connaissaient pas. Et j'ai proposé à l'un et à l'autre cette rencontre. Et ils ont été chercher. Alors ils se connaissaient deux noms. Roberto Dani connaissait Boubaker. Boubaker connaissait pas Dani. Et Eddie Boubaker, c'est un Français, il vit à Toulouse, il a commencé, c'était un joueur de saxophone, pas conventionnel évidemment, mais il a eu un petit problème de santé, et il pouvait plus vraiment souffler dans un instrument et il s'est mis à des projets de basse et d'électronique, de basse électrique, hein, instrument, il a un truc qu'il affectionne particulièrement, c'est ce qu'il appelle un synthé modulaire analogique. Alors, je sais pas si je peux vous décrire la bestiole. Mmh. C'est un espèce de fratras de connectique, de câbles, de loupes, de machin. C'est une grosse machine, c'est un synthé, mais qui marche avec des ponts de recablage. Enfin, c'est un truc un peu compliqué. Un peu vieux, ça date des années 70-80.
De toute façon, c'est analogique, hein, c'est écrit dessus.
C'est analogique. Voilà, il n'y a pas de truc numérique là-dedans. ce qui n'est pas le cas de Jack avant, hein. Il insère du numérique dans ses vieux trucs. Boubaker, voilà, c'est ça. Et Roberto Dani, c'est un Italien qui vient de Venise, qui est un percussionniste, qui travaille beaucoup pour la scène contemporaine, la danse, plutôt sur des projets écrits. Et puis, depuis quelques temps, il a un projet solo que je trouve magnifique. Très acoustique, très fin, extrêmement fin, de percussionniste. Et je ne l'avais pas vu collaborer avec des gens. Je lui ai proposé cette collaboration avec Boubaker et les deux ont parlé par mail. Et voilà, ce sera une rencontre dont on ne sait pas ce que ça va donner. Mais voilà. Et c'est la troisième collaboration avec l'Abordage. Il y a eu deux rencontres qui sont passées. Voilà, le mercredi 14 mai à 21h à l'Abordage Club.
Deux dates dont on a déjà parlé, les nuits au musée le 17 mai au musée d'Evreux.
Ouais, dans le cadre de la nuit des musées, donc il y a l'ensemble Dédalus qui est un ensemble de musique contemporaine qui était plutôt dédié musique minimale nord-américaine. Et puis depuis quelques temps, c'est un collectif, hein, il y a un noyau dur de 4-5 personnes dans le Dédalus, mais il est très extensible et il y a énormément des fois, ils peuvent être 20, il y a des gens qui se ramène sur des projets, ce sont toujours des projets écrits. On est plus dans le registre de la musique contemporaine, là, vraiment. Et là, ils se sont fait écrire une pièce par Jean-Luc Guillonnet, qui est quelqu'un que j'ai déjà invité plusieurs fois à l'atelier. L'année dernière, en collaboration avec la scène nationale, il a fait un solo d'orgue à la cathédrale. Et là, Jean-Luc Guillonnet a écrit une pièce pour le Dédalus qui s'appelle « Oui, dites ». Qui est une pièce très empirique qui sera dans le musée avec 5 musiciens en acoustique.
Voilà, dans les salles différentes, c'est ce que vous nous expliquiez juste avant. On avait parlé également de B.J. Nielsen à la Grande Halle des Expositions. D'ailleurs, elle a été nommée Grande Halle des Expositions. C'est bien parce qu'il y a une recherche sonore. Vous en parliez il y a un petit instant.
Alors, c'est pas moi qui l'ai nommée Grande Halle. Hein. C'est-à-dire qu'à la Halle des Expositions, il y a la Grande Halle
et la petite
Halle.
C'est vrai.
La petite Halle qui est la petite salle. Voilà, et la Grande Halle. Donc là, c'est dans la Grande Halle. Le 22 mai, donc avec un, je pense, un truc assez incroyable en termes sonores, voilà, qui est plus sur le registre a priori de l'électronique. C'est de l'électronique, c'est ce qu'on appelle lui, il fait du field recording, il enregistre le monde, je l'ai évoqué tout à l'heure, et il prend vraiment en compte l'aspect résonant de l'espace sur lequel il injecte des. Alors je sais pas comment il procède, hein, mais il a des micros qui sont en place pendant son set. Enfin sa performance et voilà, il se sert de la structure même comme instrument.
À la médiathèque également, pour en savoir un petit peu plus, il y aura une conférence lecture.
Ouais, en préambule d'un concert qui aura lieu au musée toujours le 14 juin, dans le cloître du musée, le cloître semi-ouvert entre la cathédrale et le musée, un petit peu comme dans le cloître des Capucins au conservatoire. Dans ce cloître-là, il y a deux artistes, une norvégienne, Jana Vinderen, et un allemand, Thomas Conner, qui font partie, comme Beji Nilsson, d'un prestigieux label anglais qui s'appelle le label Touch, qui est vraiment un label magnifique, enfin à mon sens, très pointu, très exigeant. Et donc en préambule à leur concert, à leur rencontre, à ces deux artistes, il y a à la médiathèque une conférence avec le directeur de ce label qui sera là, Mike Harding, le directeur de Touch. Il y aura Denis Boyer de Fear Drop. Denis Boyer, pour ceux qui savent, peut-être Nathalie sait, il y a des années, il avait un festival qui se passait à l'abordage qui s'appelait Fear Drop et qui était dédié aux musiques électroniques très pointues. Il y a peu de gens à Évreux qui étaient au courant, alors qu'il y avait des gens de toute l'Europe qui venaient. Et il a toujours son fanzine et il passe des commandes à des musiciens, mais il n'a plus le festival. Mmh. Et en fait, il a passé dans la prochaine édition de son fanzine, où il y a une commande à des musiciens et un CD d'inséré, il y a Thomas Conner et Jana Vinderen. Donc il sera aussi là à cette conférence lecture, où il va lire des textes issus de la sortie de ce magazine. Et puis il y aura aussi Thierry Ved. Thierry Ved, c'est un éditeur, chercheur qui travaille à l'ESAM, à l'École des Beaux-Arts de Caen-Cherbourg, et qui a invité Jana Vinderen, l'artiste qui jouera le soir, en résidence à Caen, pour un travail de création. Donc voilà, tout ça sera pour parler de ces musiques, de ces musiques-là, de ce qu'est le label Touch, de ce qu'a été Fear Drop et de ce qu'est aujourd'hui Fear Drop, de l'atelier. Voilà, c'est une rencontre où il y aura une rencontre à 17h à la médiathèque, à l'auditorium. Voilà, on pourra aborder ces choses-là.
Et en suivant, ce même samedi à 21h, le concert au cloître du musée.
Ouais. Alors, donc, je précise juste, Jana Vinderen, elle est un peu comme Beji Nilsson, mais elle est beaucoup plus radicale. C'est-à-dire, elle est sponsorisée par Shops, la marque Shops des micros. Et elle va enregistrer ce qu'on ne peut pas entendre. C'est-à-dire que son truc à elle, elle fait très peu de manipulation. Je vais caricaturer, mais pas tant que ça. Elle est capable d'aller enregistrer le coït de la crevette sous la banquise par moins 40 en plein hiver. Chose qu'on ne peut pas entendre tous les jours. Voilà. Ou alors, je ne sais pas, le bruit de la tarentule au fin fond de l'Amazonie. Enfin, son credo, c'est plutôt l'eau. Elle a un travail très engagé, elle est très militante en termes d'écologie. Et donc le gros de son travail sonore tourne autour de l'eau et de la glace, très souvent. Et elle va enregistrer des choses qu'on ne peut pas entendre et elle les met en exergue. Elle fait faire des voyages sonores avec cette matière. Thomas Conner, c'est un peu la même chose, mais il a un univers plus large sur ce qu'on appelle le field recording, ses prises de son, où il injecte beaucoup plus de choses électroniques. Il est plus ouvert sur le traitement. Voilà.
Et pour clore cette programmation, le mercredi 18 juin, à la chapelle du Mégapobec.
Ouais, alors là, c'est un trio totalement improbable. Trois personnes qui n'ont jamais joué ensemble, qui se connaissent. Trois Français, plus ou moins. Hein. Donc il y a Casper T. Toplitz, qui est un monsieur qui fait de la musique très écrite, très conceptuelle et très nouvelle technologie, qui écrit beaucoup, qui est à l'IRCAM, qui a travaillé au GRM. C'est une référence dans la musique nouvelle, en pleine création. Il a toujours des boulots très pointus, un peu très pointilleux, très conceptuel. Ah, désolé, nous avons une petite sirène de police.
Et c'est la vie, justement. Ouais. Nous sommes dans l'atelier.
Et donc, lui va rencontrer une figure de la scène alternative punk des années 70 qui est encore en exercice. Il s'appelle Jacques Bérocal. Il est trompettiste et chanteur. c'est un personnage emblématique qui a joué avec tout le monde, de Jimi Hendrix à Yvette Horner, de la scène contemporaine à la scène la plus punk et underground. Il a joué dans tous les registres. J'ai quelques petites appréhensions parce qu'il a la réputation d'être difficile à gérer, d'être un électron libre. Il a beau avoir 70 ans, il est assez ingérable apparemment, mais avec un univers dense, riche, torturé, voilà. Et un batteur, Jean-Noël Cognard, qui est un batteur de jazz assez puissant, fin et puissant, et qui joue plutôt dans la scène free jazz alternative. Donc voilà, ça donne trois entités, je sais pas ce que ça peut produire. Ils ont émis le désir tous les trois de jouer ensemble, ils se connaissent, ont des univers totalement opposés. Voilà, c'est le dernier concert, le 18 juin à la chapelle du Mégapobec.
Voilà, en tout cas, ça fait partie de cette programmation qui court jusqu'au 18 juin de l'atelier.
Merci.
Voilà. Franck, nous avons une tradition dans cette émission. Quand nous avons des invités, nous leur demandons d'assurer la pause musicale qui succède à cet échange. Est-ce que vous avez une idée de la proposition que vous souhaitez nous faire ?
Ouais, alors voilà, c'était un peu difficile de choisir un morceau qui pouvait un peu donner le ton de la programmation de l'atelier, parce qu'elle est très hétéroclite, éclectique, et surtout la plupart des artistes, enfin pratiquement tous les projets, sont des créations ou des improvisations sur place. Donc voilà, j'ai choisi de vous faire écouter un solo que j'ai fait moi en Norvège lors de ma tournée avec MLFD, avec Marc Le Vilain. Il est rentré en France et je suis allé dans un endroit assez incroyable, au milieu du parc national de Dovre en Norvège. C'est dans des montagnes, il y a un pavillon construit par des architectes, ouvert à tout le monde, avec une résonance un peu particulière. Et j'étais tout seul, c'était pas un concert public, j'ai juste emmené, il faut marcher un peu, laisser le véhicule et marcher un peu, 2 heures, un truc comme ça. Et puis j'ai emmené ma guitare désaccordée, un archet, et puis j'ai joué avec les éléments du lieu, et surtout j'ai essayé de faire une conversation avec le vent omniprésent au milieu de ces montagnes, dans ce décor de dingue. Voilà, c'était juste pour donner une couleur potentielle. Alors les propositions de l'atelier sont pas du tout forcément dans ce registre là mais ça peut donner un ton. Voilà, c'était ma proposition.
Et il est l'heure de retrouver l'agenda, une courte sélection non exhaustive de scènes de vie. Nathalie.
Alors bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble, la riche programmation des ateliers de Franck Dubois sur le site www.latelier.fr. Deux choses pour ma part, le 15 mai 20h30 auditorium du Cadran, un spectacle sur Grésil les 10 Réal, une femme extraordinaire, prostituée, écrivain, militante, anarchiste. C'est Florence Giorgetti qui monte une série de textes sur cette femme. Et puis, pour faire écho à notre sujet d'émission, c'est Music for 18 Musicians, on ne pouvait pas passer à côté, le concert de Steve Reich, 18 musiciens sur le plateau, avec intervention de la compagnie de danse Sylvain Groux. C'est un projet atypique, insolite, extrêmement communicatif. Et ce sera le 23 mai à Louviers à 20h30 au Théâtre du Grand Forum.
Et donc on continue toujours un peu dans cette ambiance électro, happening, performance. Moi je voulais vous parler d'une compagnie dont on a déjà entendu parler dans le coin, qui s'appelle la compagnie Lexanto, et qui revient à la Musse, au château de la Musse à Saint-Sébastien-de-Morsan, avec un nouveau plastique. Une nouvelle performance, ça commencera le vendredi 16 mai et ça se déroulera jusque début juillet. Vraiment, là pour le coup, soyez curieux, allez voir. Alexandre Beblehou, qui est l'un des directeurs artistiques, fait un travail assez incroyable sur la matière plastique. Donc de défiler, parce que création de robes, mais aussi happening, danser, performance. On plonge dans un univers plastique et c'est pas peu dire un univers plastique. Voilà, tous les renseignements sur le site compagnie.cie.lexanto.fr. Voilà, et puis pour finir quand même, parce que c'est le dernier de la saison, un petit jeune public à la scène nationale Évreux-Louviers avec un spectacle qui s'appelle L'Ogrelet, l'Academia Perduta, qui est une compagnie italienne qu'on a déjà accueillie il y a quelques années. Là, c'est voilà, l'histoire d'un petit ogrelet qui va découvrir sa différence en rentrant à l'école finalement. Un spectacle hyper poétique, très doux pour les enfants à partir de 7-8 ans. Voilà.
Eh bien, voilà, c'est fini pour notre actualité, enfin de ce mois.
Exactement, et nous rappelons, voilà, allez vous faire surprendre sur les rendez-vous de l'atelier. L'atelier sans apostrophe avec un S.fr pour l'intégralité de la programmation. Merci à vous, Franck, d'avoir participé à cette émission avec nous. Le prochain rendez-vous, c'est le vendredi 6 juin à 12h30 pour le dernier numéro de la saison de Scène de Vie.
Exactement, déjà, c'est passé vite.
Exactement, nous allons vous laisser en vous souhaitant un bon mois de sortie. Prenez l'air, la saison a repris largement. Et pour vous quitter, nous vous proposons un extrait de film.
Oui, choisi la Grande Illusion de Jean Renoir, parce que on est quand même dans le centième anniversaire de la Grande Guerre, 14-18, et voilà, c'est mon petit clin d'œil à ce grand événement historique qui nous a fait basculer vraiment dans une autre nouvelle représentation du monde. Donc voilà, on s'écoute un extrait de La Grande Illusion.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Commandant Krauss vous appelle, vous êtes ici sous l'autorité des lois allemandes. En cas de tentation d'évasion, les sentinelles ont ordre de tirer sur tout officier surpris en dehors des limites.
D'un côté des enfants qui jouent aux soldats, et de l'autre des soldats qui jouent comme des enfants. Un golf à jouer au golf. Un camp de prisonniers, ça sert à s'évader.
Je suis désolé de vous voir ici.
À vous dire, ça vous pince.
Ce qui pince, mon vieux, c'est pas la musique, c'est pas les instruments. C'est le bruit des pas.
Français. Français aux yeux. Verstehen?